destination Auvergne-Rhône-Alpes. Voyageons chez nous. Partons à la découverte de l'insolite en Auvergne-Rhône-Alpes. Destination Auvergne-Rhône-Alpes, la chronique estivale des radios de la Fédération Aura FM.
Bonjour, Radio Grésivaudan aujourd'hui vous propose de découvrir le patrimoine trufficole du Grésivaudan. Mais avant, ouvrons les portes du musée de l'ours des cavernes, situé en Chartreuse. Mais où en Chartreuse ?
Le musée de l'ours des cavernes est situé à Entremont-le-Vieux, qui est un village installé au cœur du parc naturel régional de Chartreuse.
Stéphanie Vérolet, directrice du musée de l'ours des cavernes.
Et ce musée de l'ours des cavernes est géré par la commune d'Entremont-le-Vieux. En effet, la grotte de la Balma-Colon, qui a révélé un gisement exceptionnel d'ours des cavernes, est située sur la commune d'Entremont-le-Vieux, dans le massif du Granier. C'est en 1988 que deux spéléologues, Marc Papet et Pierre Guiche-Baron, ont découvert une nouvelle grotte dans le massif du Granier, la grotte de la Balma-Colon. C'est le 13 novembre 1988 qu'ils ont découvert cette nouvelle grotte, et c'est seulement sur le chemin du retour qu'ils ont découvert qu'il y avait sur le sol de très nombreux ossements d'ours des cavernes. Ils se sont doutés qu'il s'agissait d'ours des cavernes, car c'était des explorateurs qui avaient l'habitude justement de découvrir et de partir à la recherche de nouvelles galeries ou de nouvelles grottes dans différents massifs. Ils ont donc averti le musée savoisien, puis le musée des Confluences à Lyon. Et des scientifiques sont venus regarder et découvrir ce gisement. Et face à cette découverte exceptionnelle, il a donc été décidé, en accord aussi avec la commune d'Entremont-le-Vieux, d'entreprendre des fouilles archéologiques, des fouilles paléontologiques, pendant 6 étés consécutifs, de 1989 à 1994. Sous la direction de Michel Philippe, paléontologue et conservateur au musée des Confluences de Lyon. Ces fouilles ont été menées dans des conditions difficiles, puisque dans la grotte il y fait 1 degré de température, 90% d'humidité relative. Les fouilleurs devaient accéder chaque matin à pied et dans la grotte, donc avec un dénivelé quand même de 600 mètres, donc ce qui représente 1 heure ou 1h30 de marche chaque matin. Et puis bien sûr, même chose le soir, il fallait redescendre, et cette fois avec des ossements dans les sacs à dos parfois. Ce qui n'a pas empêché l'équipe de scientifiques et de bénévoles de collecter au cours de ces 6 étés plus de 12 000 ossements d'ours des cavernes. Alors ces ossements sont conservés dans les réserves du musée des Confluences de Lyon, mais le musée de l'ours des cavernes a quand même la chance et le plaisir de présenter au public quelques originaux qui viennent de la grotte de la Balma-Colon. Je pense notamment au beau squelette reconstitué d'ours des cavernes qui accueille le public dans le musée et qui a été appelée Colombine par les enfants du village parce que c'est une ours femelle et qu'elle a été trouvée donc dans la grotte de la Balma-Colon. Et puis il y a également une série de 7 crânes d'ours qui vivent actuellement dans le monde, qui sont présentés dans le musée. Et ces crânes sont un dépôt du musée des Confluences. Le musée de l'ours des cavernes a ouvert ses portes en 2002. Il reçoit traditionnellement 15 000 visiteurs chaque année. Nous avons beaucoup d'enfants qui viennent visiter le musée dans le cadre scolaire ou dans le cadre familial ou avec des centres de loisirs. C'est une partie importante de notre public. L'ours des cavernes est un animal préhistorique aujourd'hui disparu. Il a vécu de 150 000 ans à 15 000 ans avant nos jours en Europe. Et cet animal préhistorique avait choisi la grotte de la Balma-Colon pour venir hiverner. Et une des particularités de cette grotte, c'est que l'ours des cavernes utilisait cette grotte donc pour hiverner pendant une très longue période, de 45 000 ans à 24 000 ans avant nos jours. C'est ce qui rend cette grotte unique en Europe, cette très longue période d'occupation par les ours des cavernes. Et puis, il y a 24 000 ans, un éboulis rocheux a condamné l'accès à cette grotte. Et c'est la raison pour laquelle ce gisement est aussi bien préservé et qu'il a révélé autant d'informations intéressantes sur l'environnement et le mode de vie de l'ours des cavernes, puisque voilà, c'était un site protégé. Et lorsque nos deux spéléologues l'ont découvert en 1988, ils l'ont trouvé tel que la grotte avait été laissée par les derniers ours qui y étaient entrés il y a plus de 24 000 ans pour hiverner. Lors de sa visite, le public est invité à se mettre dans la peau des scientifiques et des paléontologues qui ont réalisé les fouilles dans la grotte de la Balmacolon. Et ils sont invités à mener l'enquête, à explorer le musée et à manipuler des ossements sur différentes tables interactives. Il y a aussi un petit parcours de visite spécifique au jeune public. Nous donnons effectivement à l'accueil un petit carnet de jeux pour le jeune public âgé de 5 à 12 ans, ce qui permet de rendre la visite plus interactive. Alors, que découvre le public au cours de sa visite? Eh bien, différentes thématiques sont abordées. On découvre notamment le régime alimentaire de l'ours des cavernes. En dépit de ses dents impressionnantes, on découvre en fait que l'ours des cavernes était omnivore à tendance végétarienne. 80% de son alimentation était en fait composée de végétaux. Le public est aussi invité à faire la différence entre des ours mâles et des ours femelles en s'aidant de deux crânes qui sont exposés dans le musée et que l'on peut manipuler. Donc on découvre que le crâne du mâle est plus gros que celui du crâne de la femelle et que la crête sagittale, c'est-à-dire la crête osseuse qui part de l'arrière de la tête, est beaucoup plus prononcée chez le mâle que chez la femelle. Nous avons aussi une petite séance chez le dentiste qui est proposée lors de la visite du musée, puisque en fait, le public est invité par radiographie à analyser et à découvrir les mandibules de trois oursons. Et on peut, par radiographie, découvrir si les dents glaies sont déjà apparues ou pas, et si les dents permanentes, elles aussi, sont apparues ou pas. Ce qui permet donc de donner un âge approximatif aux oursons qui sont présentés sur cette table interactive. Et puis, dans l'équipe des scientifiques, des chercheurs, nous avions donc des paléontologues, des géologues, mais nous avions aussi une palynologue spécialiste des pollens. Donc, cette palynologue était chargée d'analyser les pollens que les ours avaient pu transporter dans la grotte, dans leur pelage, sous leurs pattes ou dans leurs estomacs. Et en fait, on découvre que la végétation ressemblait beaucoup à celle d'aujourd'hui, mais nous étions quand même dans un climat plus froid que le climat actuel, d'autant plus que nous étions les ours ont vécu lors de la dernière grande période glaciaire de la préhistoire, le Würm. Donc en fait, il y avait un certain nombre d'arbres comme des sapins, des épicéas. Par contre, il n'y avait pas de feuillus à l'époque du côté de la grotte de la Balmacolon. C'est la différence majeure avec la végétation d'aujourd'hui. Lors de la visite du musée, le public est parfois surpris, étonné, voire effrayé lorsque retentit un grognement d'ours des cavernes. En fait, le public est alors invité à aller s'asseoir dans la salle audiovisuelle du musée pour la projection d'un film en 3D. C'est l'occasion de découvrir donc cette grotte de la Balmacolon, qui n'est malheureusement pas accessible en temps normal puisqu'il s'agit d'un conservatoire de l'ours des cavernes. On découvre donc le rôle des spéléologues qui ont donc découvert ce site exceptionnel. On aperçoit aussi le travail mené par les équipes de scientifiques pendant ces 6 étés consécutifs et toutes les recherches scientifiques qui ont découlé de ces 6 années de recherche. Le film en 3D proposé dans la salle audiovisuelle du musée de l'Ours des Cavernes propose de revivre une belle aventure humaine et scientifique qui a été partagée pendant 6 années. Le musée de l'Ours des Cavernes a ouvert ses portes en 2002. Il a été imaginé par l'architecte Jacques Combet. C'est un musée classique, puisqu'en fait on propose un espace boutique, articles de souvenirs. Il y a un petit point café aussi, où le public peut partager un petit moment de détente à la fin de la visite du musée. Le musée présente également un espace d'exposition temporaire, donc tous les ans ou tous les 2 ans, nous proposons une nouvelle exposition temporaire. En ce moment, nous présentons l'exposition Plonk et Replonk, une exposition signée d'un collectif d'artistes suisses qui nous propose des détournements d'images et de cartes postales anciennes, avec beaucoup d'humour et de fantaisie. Donc le musée d'Entremont-le-Vieux met en valeur un patrimoine paléontologique et géologique, mais d'autres patrimoines existent sur le territoire. Vous avez par exemple les grottes de Saint-Christophe-la-Grotte qui sont à 20 km d'Entremont-le-Vieux et avec qui nous avons une proximité en termes de thématique puisqu'il s'agit ici d'une exploration du monde souterrain. Vous avez aussi d'autres sites culturels situés notamment à Saint-Pierre-de-Chartreuse, je pense notamment au musée d'art sacré contemporain Arcabas ou alors au musée de la Grande Chartreuse. Et tous ces sites finalement contribuent à mettre en valeur un patrimoine culturel, cultuel parfois, pour le plaisir des touristes et des habitants du territoire.
En quittant le musée de l'Ours des Cavernes, restez sur la commune pour aller à la fromagerie coopérative du village et déguster le patrimoine gustatif de Chartreuse. À propos de patrimoine gustatif, retrouvons la truffe du Grésivaudan et l'association La Catananche Cartusienne.
Catananche, puisqu'on est sur les versants de Chartreuse.
Roland Grimaud.
Et Cartusienne, c'est une fleur qui pousse aussi en Chartreuse. Notre raison d'être, c'est le développement de la truffe en Isère. Pour ce faire, il y a déjà eu un gros travail de diagnostic, d'analyse de ce qu'il existait et comment on pouvait se développer. Donc nous avons depuis le début de la création de cette association une convention avec le parc de Chartreuse pour le développement justement de la truffe sur son territoire.
Je travaille avec le parc naturel régional de Chartreuse depuis à peu près une quarantaine d'années.
André Coulon.
Et avec comme objectif relancer dans le domaine de l'agriculture, de l'agroforesterie et autres, une agriculture qui existait de manière temporaire en hiver, c'était la récolte de truffes dans les vignes, puisque entre Grenoble et Chambéry, il se commercialisait de 4 à 40 tonnes de truffes par an. Et par ailleurs, eh bien, qu'est-ce que c'est que la truffe? C'est un champignon. La truffette naît à la lune de mai et grossit jusqu'au mois d'octobre-novembre. C'est au mois de novembre qu'elle devient comestible parce qu'elle développe tous ses arômes et ses fragrances et qu'elle attire aussi, bien sûr, les animaux qui vont la manger, la digérer et la répandre dans la nature. C'est un cycle complet, parfait et passionnant. Donc ça naît en été et ça se mange en hiver et en hiver ça nous donne de l'énergie. Mais ça donne de l'énergie aussi aux viticulteurs, aux paysans, à tous ceux qui goûtent les truffes, mais aussi aux lapins, aux chevreuils et autres animaux divers.
Bonjour, Jean-Louis Chemin, ancien cuisinier et restaurateur. Donc on s'intéresse aussi à la cuisine de la truffe, en salé et en sucré. Car la truffe, ça se mange aussi en dessert. Ça peut se cuisiner avec des pommes de terre, une purée. Truffée, c'est parfait. On peut se faire en plat de pâte avec une sauce crémée et truffe. On est sur des produits, une cuisine simple, mais qui va valoriser, qui va faire ressortir la truffe. La truffe, on peut également en dessert la découvrir, par exemple sur des crèmes brûlées, où c'est un vrai bonheur. Et si on est un peu plus féru de cuisine, on peut s'essayer à des soufflés glacés truffés. Et là, on va vraiment découvrir quelque chose d'extraordinaire. Si vous voulez regarder un peu sur notre site de l'association, vous y découvrirez quelques recettes qui vous aideront à aborder la truffe quand vous en avez.
Pour découvrir la truffe du Grésivaudan, vous pouvez prendre contact avec l'association au numéro suivant 06 73 45 98 18. Et après une dégustation dans un des restaurants locaux, faites quelques kilomètres jusqu'à la commune de Montfort pour utiliser le funiculaire de Saint-Hilaire du Touvet, le plus pentu d'Europe.
C'était Destination Auvergne-Rhône-Alpes, la chronique estivale des radios de la Fédération Aura FM, Fédération des radios associatives non commerciales Auvergne-Rhône-Alpes. Retrouvez toutes les productions de cet été sur le site aurafm.org.